Voilà, j'ai vu dans le programme des conférences qui vous sont proposées qu'il y avait une de mes collègues, Brigitte Louichon, qui venait parler de la littérature au cycle 3. Alors, même si vous n'êtes pas directement concerné, parlez-en autour de vous parce qu'elle fait un travail remarquable. Et ça vaut vraiment, vraiment la peine de venir l'écouter. Alors, je ne sais plus la date. 8 avril. Et faites de la pub. Parce que vraiment, sur la littérature au cycle 3, lire des œuvres complètes, etc., c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail formidable. Voilà, j'ai fait 2 minutes de pub. Alors, je vais revenir un peu sur le langage de l'école et sur la question des constats et des malentendus. Je voudrais redévelopper un point que j'ai simplement évoqué sûrement. En tout cas, ce qui nous frappe dans l'étude du langage mobilisé, sollicité à l'école maternelle et à l'école en général, c'est que l'école demande sans arrêt aux enfants, aux élèves, alors enfants quand ils arrivent à l'école maternelle et élèves ensuite, de mettre à distance les actions, la pratique, les expériences quotidiennes, et l'école leur demande de construire les discours sûrs. Et les élèves issus des milieux populaires ont du mal, il y a des études qui montrent, qu'ils ont du mal à mettre à distance la pratique. Parce que, comme ce que je disais ce matin, dans le milieu familial, dans les milieux populaires, à la maison, on valorise la pratique, on valorise les actions sur le monde. Et l'école, elle demande aux enfants non plus de faire les choses, mais d'être capable de parler sur les objets, sur les pratiques, etc. Et là, c'est un gros enjeu, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'en CM2, dans une évaluation nationale qui a eu lieu, on demandait aux élèves, il y avait un schéma d'un vélo, et on demandait aux élèves, comment peut-on savoir si le vélo fonctionne ? Une partie assez importante des élèves a répondu, a écrit, pour le savoir, il n'y a qu'à monter dessus, en gros. Hein. Et ils ont raison. Dans la vie quotidienne, si je veux savoir si le vélo fonctionne, je ne vais pas regarder pendant une demi-heure les rouages, alors surtout moi, hein, mais ce n'est pas comme ça que je vais faire. L'école, elle dit, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'en fiche de savoir si l'enfant sait faire du vélo ou pas. Ce qu'elle veut, c'est que l'enfant soit capable de parler à propos des rouages du vélo. On voit bien dans des classes de cycle 3, quand les maîtres disent aux enfants « décris », alors c'est une production d'écrit, « décris ce que tu vois par la fenêtre de ta chambre », en gros, on a les enfants qui ont compris que le maître se fiche de savoir ce qu'il voit réellement par la fenêtre de la chambre. Ce que le maître attend, c'est la description d'un paysage, d'un lieu. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfant est intériorisé, les attentes, et que le maître n'ira pas vérifier si c'est vraiment ce qu'on voit par la fenêtre. Et il y a des enfants qui répondent à cette demande par écrit, « Je vois un mur ». Et c'est ce que réellement ils voient. Mais et ils ne comprennent pas pourquoi après ils ont zéro, puisque c'est ce qu'ils voient. Et vous voyez, en fait, l'école demande aux enfants d'entrer dans l'activité de description, et donc il y a une description scolaire, type, qu'il faut avoir construite. Et vous voyez, c'est ce passage qui va être très compliqué. Parce que il y a des enfants qui restent englués dans l'action, dans le faire. Alors, on a des gens comme Terrail qui disent il faut mettre à distance le faire, l'action, pour contraindre à l'activité intellectuelle. Alors, je vais développer un peu ce point, parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que on sait bien à l'école maternelle qu'il y a des enfants qui sont tout le temps en train de manipuler, de tripoter des objets. Alors, ils sont dans le coin construction, dans le coin garage, dans le coin poupée, et ils font des choses sans arrêt. Et donc là, il faut aller voir si pendant qu'ils font des choses, ils se parlent. C'est-à-dire s'ils mobilisent des mots qui accompagnent l'action, s'il y a du langage. Et en fait, à un moment donné, il va falloir, et sûrement en moyenne section, contraindre l'enfant avant de faire, de dire comment il va faire ce qu'il va faire. Alors des choses très simples, c'est-à-dire dire tout à l'heure, je vais te demander de dessiner un village. je te laisse 2 minutes pour réfléchir. Tu me diras comment tu vas faire et comment tu vois le village que tu vas dessiner. Et ne pas donner la feuille, ni les feutres, ni les crayons. Et l'enfant doit être, avec le langage, en train de représenter, construire le village et comment il va réussir à le dessiner. Avec les Legos, dire « Tout à l'heure, je te donnerai des Legos pour fabriquer une voiture. Je te demande de fabriquer une voiture. » Tu réfléchis 2 minutes et tu me diras combien de Legos tu as besoin, quel Lego. Alors, est-ce qu'il faut, vous voyez, les roues, etc., etc., et comment tu vas faire la voiture. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfant se représente l'activité et passe par le langage avant l'action, avant le faire. Alors, ça, c'est important pour qu'ils puissent tous comprendre que manipuler les objets, à un moment donné, l'école, elle va abandonner cette pratique. Il va falloir conceptualiser, se représenter sans passer par la manipulation. C'est-à-dire que c'est la pensée qui fait le travail, le langage qui fait le travail. C'est plus les mains. On a des élèves en très grande difficulté en quatrième, quand on leur demande « explique ce que tu as fait », qui répondent « c'est pas moi, c'est ma main ». Ça veut dire que, voyez, d'une certaine manière, ils se sont jamais construits comme des êtres pensants. La main, elle agit en dehors d'eux. Il n'y a pas de lien, voyez. C'est terrible parce que ça veut dire que, voilà, il n'y a pas la conscience que je réfléchis et que c'est moi qui demande à ma main de faire quelque chose et pas la main qui agit sans moi, voyez. Donc, c'est sûr que là, l'enjeu du langage est très fort. C'est mettre à distance le faire, la pratique, la manipulation pour un moment pouvoir en parler. Alors, je vais aller un peu en avant pour parler de la progression. Puisque j'avais dit que je proposerais une progression. Je crois que chez les petits, et on va le garder pour les moyens, au début, il va falloir dire ce qu'on fait, en même temps qu'on le fait. C'est-à-dire mettre les mots qui vont avec l'action, avec le faire, avec la pratique. S'ils sont en train de faire un bonhomme en pâte à modeler, même si ça ressemble à tout sauf à un bonhomme, c'est de pouvoir dire « je fais un bonhomme ». C'est-à-dire, à minima, répéter la commande du maître. Le maître a dit « faites un bonhomme ». Ça ressemble à tout sauf à un bonhomme. Et puis, progressivement dans l'année, dire ce qu'on a fait. Tiens, tout à l'heure, tu as fait un dessin. Qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas dans l'instant même. C'est-à-dire, on diffère un peu. Ça me paraît déjà une progression magnifique pour la petite section, qu'on va poursuivre chez les moyens, et chez les moyens, on va complexifier un peu en demandant ce qu'on va faire. Tiens, tu vas dans le coin construction, qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, avant de poser la question, l'enfant ne le sait pas. C'est-à-dire, il va dans le coin construction et il prend des objets qui vont s'organiser pour faire une voiture, etc., sans qu'il en ait nécessairement la conscience, vous voyez. Et puis, vers la fin de la moyenne section, comment tu as fait? Et le comment, eh bien, ça y est, on est dans l'activité langagière intellectuelle. Le processus. Comment j'en suis arrivé à fabriquer cette voiture? Comment j'ai fait pour faire le village? Reconstruire le parcours qui m'a permis d'en arriver là. C'est pas facile, hein? Et puis chez les grands, on garde comment on a fait, ce qu'on va faire, comment on va faire, c'est-à-dire anticiper par le langage l'action. Comment il faudrait faire si on décidait telle chose? Très difficile, hein? Et comment l'autre a fait? Tiens, Mathieu, il a fait une voiture. Est-ce que tu sais comment il a fait? C'est-à-dire de voir qu'à un moment donné, ma pensée, mon langage, me permet de comprendre les actions de l'autre et comprendre comment les autres agissent et pourquoi ils agissent comme ça. C'est la grande aventure de la pensée, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train, nous, de se demander et d'essayer de comprendre les autres. Et quand le matin, vous croisez un collègue qui ne vous dit pas bonjour, on ne peut pas s'en empêcher, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Je l'ai vexé, j'ai dû dire un truc hier ». Ou alors il ne m'a pas vu, il est étourdi, mais on ne peut pas s'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi les autres agissent comme ça. Alors, sans parler de paranoïa, hein, mais on a besoin de comprendre. Vous voyez, ça me paraît une progression pour le langage. Ça, pour moi, c'est du langage, c'est pas de la langue, c'est pas de la structure, c'est pas de la récitation, c'est pas du par cœur, ça marche pas. Et je crois que très régulièrement, un bilan en fin de matinée, tiens, qu'est-ce que vous savez faire maintenant que vous ne saviez pas faire ce matin en arrivant ? Ah ben ça, c'est magnifique, parce qu'il n'en avait pas l'idée avant de poser la question. Alors évidemment, c'est aussi un moment où on entend des choses terribles. Rien. Alors j'ai entendu une fois, tiens, j'avais jamais vu que la classe, elle était peinte en jaune. Alors que manifestement, la maîtresse était échinée à faire comprendre quelque chose. Et donc là, celui-là, il avait vu une chose ce jour-là, il n'avait jamais remarqué que la peinture était jaune. Et en même temps, ça nous indique, voyez, ça nous renseigne sur son activité intellectuelle. Donc soit il savait déjà ce qu'on a proposé, soit il est trop loin, c'est trop difficile et donc il ne peut pas l'entendre, mais voyez, ça nous dit quelque chose. Alors je reviens un peu en arrière. Bon, ça c'est ce que je disais donc juste avant la progression. Et donc, je vais développer un peu l'idée de scolarisation. Alors, on reproche beaucoup à notre école maternelle de creuser les écarts, de ne plus assurer l'ascenseur social pour les enfants des milieux défavorisés, des milieux populaires. D'où ça vient, ça? Alors, ça vient du fait que l'école maternelle française a réussi cette mission merveilleuse de scolariser tous les enfants. C'est-à-dire que quasiment tous les enfants vont à l'école maternelle. Et du coup, ce phénomène fait que l'école maternelle deviendrait une évidence, deviendrait un milieu naturel. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, il y a des pratiques, des discours, des objets, des outils qui sont propres à l'école et qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, en dehors de l'école. Et ça se justifie. Il y a des choses qu'on fait à l'école qui ne servent jamais dans le quotidien, mais qui nous permettent de développer la pensée. C'est inutile pour la vie quotidienne, mais c'est utile pour mieux comprendre, pour se construire comme un être pensant. Et donc l'école, elle ne doit pas lâcher ça. C'est son travail. Alors, je vais prendre des choses que du quotidien. La plupart des enfants savent ce que c'est à la maison de faire un gâteau. À la maison, quand on fait un gâteau, en général, c'est lié à un plaisir. Soit il y a des invités qui viennent le soir à la maison, et donc on fait un énorme effort pour faire un très très bon gâteau. Soit c'est l'anniversaire du tonton Jean. Et pour faire plaisir à tonton Jean, comme il adore le chocolat, on va lui faire le meilleur gâteau au chocolat du monde. Mais vous voyez, c'est très lié à une expérience affective, au plaisir de le manger, de le partager avec quelqu'un. À l'école, faire un gâteau, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que l'enfant, il va pas retrouver les mêmes objectifs et le gâteau ne va pas être fait pour la même chose. À l'école maternelle, le gâteau, c'est un prétexte. En gros, le maître ou la maîtresse, il s'en sert pour qu'on lise des recettes, qu'on légende les photos s'il a pris des photos pendant qu'on faisait le gâteau, qu'on redise le lendemain comment on a fait le gâteau, ce qu'on a mis dans le gâteau. Et en gros, si le gâteau est raté, c'est pas grave, les gamins vont quand même le manger. Vous voyez, c'est un prétexte pour des activités, pour intellectualiser cette activité. En faire un objet pour entrer dans l'écrit, etc. Alors, même si c'est un gâteau qu'on mange pour l'anniversaire du petit copain qui a 3 ans ce jour-là, je ne vais pas y voir, mais je suis sûre que vous posez des questions qui font que le gâteau, ça n'est pas que ça. Et c'est normal parce que c'est l'école. C'est la même chose pour habiller la poupée. C'est-à-dire que jouer avec la poupée, il y a des tas d'enfants qui l'ont fait avant l'école. Mais si on sollicite cette activité à l'école maternelle, ça va être pour en dire autre chose. Comment on fait? Alors on imagine que c'est l'été, quels vêtements on peut lui mettre? C'est pas la même chose que l'hiver. Elle est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour la soigner? Vous voyez, c'est-à-dire on en fait un objet de discours immédiatement. Alors qu'à la maison, on peut jouer à la poupée et pas construire ses discours sûrs. Écouter une histoire, c'est la même chose, ça n'a rien à voir à la maison et à l'école. Regarder un album, j'en ai parlé ce matin, c'est pas la même chose. À la maison, ça sert de support pour parler de l'enfant. À l'école, ce qu'on attend, c'est qu'il parle surtout pas d'eux. Surtout pas. progressivement, ils doivent comprendre qu'il ne faut plus parler de soi. Même chose pour jouer avec l'eau, même chose pour faire la pâte à modeler, même chose pour dessiner un bonhomme. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas du tout, même si ça ressemble, ça a l'air d'être la même pratique, ça, en fait, ça n'en est pas. C'est un prétexte pour faire autre chose. Et ça, il ne faut pas le lâcher. Et c'est là où les enfants des milieux populaires ne s'y retrouvent plus. C'est-à-dire que cette rupture opérée par le langage, eh bien, ils ont du mal à comprendre sur quel terrain on les emmène, pourquoi ça ne sert plus aux mêmes choses. Et vous voyez, ça va passer par ce qu'on appelle la clarté cognitive. C'est-à-dire que quand vous vous explicitez qu'à ce moment-là, faire un gâteau, eh bien, demain, on en reparlera pour dire telle et telle chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dirige, on oriente la pratique vers une autre activité. Alors, l'oral, ben, il faut quand même l'oser. Alors, comment, avec qui, pourquoi ? Alors, évidemment, le langage, c'est d'abord, et ça je l'ai dit en tout début, ce qui permet de comprendre, de réfléchir, de penser, de savoir, d'interroger. C'est le lieu pour réduire les inégalités sociales et les inégalités scolaires. C'est le lieu. Alors, la maternelle, elle se caractérise par l'oral à apprendre, c'est-à-dire qu'on continue à développer le langage oral et en même temps, il faut apprendre des mots qui servent à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a ces deux dimensions à l'école maternelle qui sont indissociables. L'enfant développe son langage et en même temps, il doit apprendre le langage des apprentissages. Alors, l'enjeu principal, accompagner l'action. Commenter l'action. Différer l'action. Construire le processus qui sous-tend l'action. Anticiper le processus qui va permettre l'action. En gros, c'est ça, les enjeux. Alors, ce n'est pas des enjeux de structure. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un enfant emploiera 10 connecteurs qu'il sera dans le langage. Et ce n'est pas parce qu'un enfant n'emploie pas de connecteurs qu'il n'est pas dans le langage. Ça ne peut se faire... Oui, madame. Oui, mais madame, on l'a peut-être pas redit en début cet après-midi, mais tout le document, vous allez l'avoir à disposition. Mais je veux bien revenir en arrière parce que je vois votre regard. Alors, au niveau des dispositifs, le développement du langage ne peut se faire qu'en groupe réduit. Et là, vous allez voir, je vais vous dire des choses terribles. C'est-à-dire que le groupe... Il ne doit pas reproduire, le petit groupe ne doit pas reproduire le grand groupe. C'est-à-dire que pour certaines activités langagières, il va falloir mettre ensemble des grands parleurs et mettre ensemble des non-parleurs ou des tout petits parleurs. Et là, vous me dites, c'est formidable, ils ne parlent pas. Et là, je vous dis oui, vous allez vivre des moments de grande solitude. Et il faut en passer par là, c'est-à-dire que un groupe de langage avec des enfants qui ne parlent pas, eh bien, c'est vous qui parlez. Et tant pis, dites-vous, pendant 3 mois, 4 mois, c'est moi qui vais parler. Mais là, il y a un enjeu fondamental, c'est-à-dire quand vous parlez, vous êtes en train de dire aux enfants, implicitement, voilà ce que j'attends de vous à ce moment-là. Voilà ce qu'il faut faire avec tel objet. C'est ça, l'école. Et pour l'instant, c'est moi qui le fais devant vous et avec vous, parce qu'à un moment donné, vous pourrez le faire sans moi. Alors, c'est des longs moments de solitude parce qu'évidemment, ça ne se règle pas en une semaine ou deux. Hein. On est bien d'accord. Un enfant qui ne parle pas, sauf exception, ça dure un certain temps. Sauf qu'à ce moment-là, en groupe réduit, il faut qu'il y ait toujours, et moins il parle, plus il en faut, il faut qu'il y ait des objets. Parce qu'on ne peut pas parler dans le vide. Surtout quand on ne sait pas parler et qu'on ne peut pas parler. Pour des tas de raisons. Hein. Il faut qu'il y ait un objet. C'est-à-dire que ce soit un album... que ce soit un jeu, que ce soit une poupée, un petit bout de pâte à modeler, quelque chose, il faut qu'il y ait un objet. Et là, les enfants, quand il y a objet, ils vont pouvoir faire ce qu'ils savent faire, sans langage, montrer. Et c'est ce qu'ils font quand ils ne parlent pas. Ils montrent. Ils prennent. Et vous, vous allez commenter, c'est-à-dire que votre boulot à vous, à ce moment-là, c'est de commenter, reformuler, développer ce qu'ils font avec les gestes. Et vous allez le faire avec votre langage. C'est-à-dire leur montrer que l'action, elle peut être remplacée par des mots. Alors, c'est des groupes de langage, enfin, des moments de langage qui durent 3 à 10 minutes, grand maximum, en comptant tout, l'installation matérielle, etc. Vous voyez, ça ne va pas au-delà. Et c'est faire, pour moi, ce que j'ai dit ce matin à propos de la littérature, faire avec un petit groupe avant de faire avec tout le groupe. De manière à permettre à ces enfants de reconnaître l'activité qu'ils ont menée avec vous, celle qui a été faite en petit groupe, tiens, maintenant, elle fait la même avec tout le groupe. Et donc, moi, j'ai déjà quelques éléments langagiers pour comprendre cette activité parce que je l'ai vécue avec 3 ou 4 copains comme moi. Vous voyez ? C'est-à-dire renverser, ne pas d'abord le proposer en collectif. Faire d'abord avec un petit groupe d'enfants en grande difficulté, et les grands parleurs, ils n'en ont pas besoin. Et les moyens parleurs non plus. Il faut consacrer votre énergie à ceux qui parlent très très peu ou pas du tout. Alors, quand j'ai mis un étayage très renforcé, il ne faut pas hésiter à parler, parler, parler. Ce qu'on fait d'ailleurs tout le temps. Je ne devrais même pas le dire. Alors, depuis le début, depuis ce matin, mais cet après-midi, je l'ai répété plusieurs fois, il n'y a que l'école pour faire ça. Pourquoi ? Je ne connais pas d'autre endroit dans la vie de l'enfant où ça, c'est possible. Première raison, et j'insiste parce que je crois que si certains nous malmènent le travail de l'école maternelle, il faut répondre à ça, point par point. Premier point, l'expertise du maître. C'est-à-dire que vous, vous savez pourquoi vous convoquez tel objet, tel outil, tel moment de langage. Vous êtes ce qui a écrit dans les documents d'accompagnement 2006 que le monsieur Darcos souhaite à nouveau publier. Il l'a annoncé il y a quelques jours. Voilà. Donc ce document va être à nouveau d'actualité. Et donc il faut que le maître soit tuteur de langage. C'est-à-dire que le maître va proposer des reformulations de l'activité de l'enfant, des actions, et leur montrer qu'il y a plusieurs manières de dire une chose et qu'on n'est pas englué dans une seule mise en mots, si vous voulez. L'expertise du maître, elle est du côté de la clarté cognitive. Il n'y a que le maître qui peut expliciter ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. C'est-à-dire, en gros, comme dit Fijalkov, le maître, il donne accès aux enfants à sa boîte noire, c'est-à-dire son cerveau. Il dit aux enfants, voilà à quoi je pense quand je fais ça, voilà ce que j'attends de vous quand je fais ça. Et en l'explicitant, il permet aux enfants de le reprendre pour eux. Voyez ? C'est-à-dire qu'au début, ils vont répéter ce qu'on dit, et puis petit à petit, ça va devenir une activité pour eux, une activité langagière pour eux. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre lieu où on peut trouver l'expertise d'un adulte à un si haut niveau. Il n'y a pas que ça. Il y a un groupe de pairs. C'est-à-dire que là, les interactions langagières, elles sont d'une extrême complexité à l'école maternelle. Il y a des moments, quand le maître pose une question, la réponse d'un enfant vaut pour tous les enfants. C'est-à-dire quand vous dites quel jour on est, vous n'attendez pas que les 30 vous disent mardi, 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 mardi. Non. S'il y en a un qui dit mardi et qui dit comment il le sait, ça vaut pour tout le groupe. Et il y a des moments où le maître attend que chacun disent quelque chose qui lui soit propre, personnel, voyez. Et donc les interactions, là, elles sont très subtiles et il faut que l'enfant repère les moments où il faut dire quelque chose de différent des autres et les moments où c'est pas la peine de répéter parce que c'est bon, quelqu'un l'a dit, ça vaut pour tout le monde. Et puis, c'est un lieu où on va construire les pratiques culturelles. C'est-à-dire que dans notre culture, on se réunit autour d'un objet, d'un livre, d'un film, d'une musique, d'une sculpture, d'une pratique, et on en parle ensemble. Alors, il y a des tas d'émissions radio, télé, il y a des critiques dans les magazines. C'est une pratique. Et l'école est le seul lieu, pour la plupart des enfants, la majorité écrasante des enfants, où on va pouvoir construire ces pratiques avec eux et pour eux. Il n'y a pas d'autre endroit dans leur vie où ils peuvent retrouver des copains du même âge, en gros, un adulte expert qui construit ses pratiques avec eux. Il n'y a pas d'autre endroit. Et puis, l'école, c'est l'endroit où l'enfant va intérioriser, c'est-à-dire va reprendre pour son propre compte ce que l'adulte fait devant lui, dit pour lui, et ce que les copains disent et font devant lui. Et chez les petits, c'est très fort, c'est-à-dire s'il y en a, vous lisez un album qui fait peur, il y en a un qui se met à hurler ou qui pleure, et il y en a 10 qui font la même chose. Et là, le boulot du maître, et il n'y a pas d'autre endroit, c'est de dire, ben oui, généraliser l'expérience, ben oui, les histoires, ça peut faire peur. Et ça y est, on tient là le rôle de l'école. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, toi, tu as eu peur, mais on est tous pareils. Ça peut faire peur. C'est ça, les histoires. Il y a des moments, en motricité, on fait des choses qui font très peur. Mais ma peur, c'est pas moi tout seul qui ai peur. C'est-à-dire, j'apprends à gérer cette peur parce que le groupe me montre que c'est normal d'avoir peur et le maître me dit que c'est normal d'appréhender telle chose. Et voyez, là aussi, je renverserai les choses. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les enfants, les petits, sont dans le moi et le je. Mais pour pouvoir dire je et se distinguer des autres, il faut d'abord avoir construit l'altérité. C'est-à-dire d'abord avoir compris qu'on est tous quasiment identiques les uns aux autres. Les humains, on a tous les mêmes grands sentiments. Et sur certains points, on est différents des autres. Mais ce qui nous caractérise d'abord, c'est le commun. Et quelques morceaux particuliers. Et vous voyez ? Et donc, c'est pas un hasard si l'enfant se nomme à 3 ans par son prénom. Parce que d'une certaine manière, pour pouvoir dire « je », il faut d'abord avoir construit ce qui nous est commun. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est le gros boulot de l'école maternelle, c'est de généraliser les expériences, montrer ce qui relève de tous et les moments où on peut pointer ce que toi, tu penses et les autres ne pensent pas comme toi. Et puis, le troisième point, et j'ai fait que parler de ça aujourd'hui, ce matin pour l'entrée dans l'écrit cet après-midi, c'est le rôle du langage. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, le langage est convoqué, construit, d'une manière qui est propre à l'école. L'enfant ne le retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que les maîtres utilisent, mobilisent sans arrêt un certain nombre de verbes qui permettent d'intellectualiser les pratiques, les verbes penser, réfléchir, comprendre, croire, savoir, reformuler, qui, vous voyez, qui sont des verbes qui intellectualisent, qui mettent à distance la pratique et on parle d'eux. Et puis le rôle du langage, c'est la reconfiguration des expériences de la vie quotidienne. C'est-à-dire que les mêmes expériences, avec des guillemets, elles vont être reconfigurées. C'est-à-dire elles vont ressembler un tout petit peu à des expériences que je connais déjà, mais en même temps, ce sont des expériences qui maintenant sont scolaires, scolarisées et scolaires. Et petit à petit, les expériences quotidiennes familiales vont coexister avec les expériences scolaires. Elles ne vont pas les remplacer. Mais il faut que pour tous les enfants, l'idéal, ce serait qu'en fin de grande section, ça puisse coexister. Alors, j'ai mis un tout petit extrait d'un texte d'Agnès Florin que j'aime beaucoup, que vous aurez donc dans le PowerPoint, qui montre que la grande hétérogénéité des enfants et le rôle de l'école maternelle. Voilà, avec une bibliographie comme j'ai proposé ce matin. Alors, je voulais juste reprendre un exemple d'un échange à l'école maternelle. C'est Agnès Florin qui en parle dans son livre « Parler à l'école maternelle » où les enfants en petite section reviennent d'une sortie scolaire. Ils sont allés visiter une ferme. Et la maîtresse leur demande « Alors, qu'est-ce qu'on a fait ?» Et vous voyez, dans le « qu'est-ce qu'on a fait ?», on peut tout répondre d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a mangé, on est allé aux toilettes, on a joué, etc. Et il y a un enfant qui a compris son métier d'élève et qui dit, alors elle répète sa question et elle dit, comment on est parti en sortie ? Un enfant répond « en quart ». Et un autre petit dit immédiatement « l'autruche, sa mort ». Et je, vous voyez, ça, ça nous parle bien de la petite section. C'est-à-dire, soit il a entendu les adultes dire à n'en plus finir toute la matinée, attention, il ne faut pas s'approcher des autruches, ça mord. Et il est totalement resté sur cette sidération. Soit il s'est fait mordre, bon, j'espère que non. Hein. Et il y en a un autre qui enchaîne en disant il y avait un porc, en faisant une grimace. Ça sentait très mauvais. Et on voit dans le corpus, si vous voulez, dans les moments d'échange, que la maîtresse, elle, de son côté, elle veut que les enfants redisent tout le trajet, comment on est allé dans la, à la ferme, qu'est-ce qu'on a fait après, etc. Vous voyez qu'elle leur fasse, qu'elle construise, qu'ils construisent ce récit de l'expérience. Et elle a raison. Sauf que vous voyez, je crois qu'en petite section, autant ça on peut le proposer directement en grande section, mais en petite section, ça passe nécessairement par un abandon temporaire, momentané, des apprentissages scolaires. Ça passe nécessairement par le fait qu'ils puissent dire quelque chose d'affectif. Et c'est pas perdre son temps, c'est par là que je voudrais en finir, c'est pas perdre son temps, c'est nécessaire de convoquer cette dimension affective, parce que jusqu'à 4 ans et demi, le langage, c'est d'abord, ça renvoie d'abord à cette dimension-là, d'abord. Alors, je commente en 2 minutes la bibliographie comme j'ai fait ce matin. Je recommande chaudement le livre d'Elisabeth Bautier, qui montre comment des enfants entrent directement dans les apprentissages scolaires et d'autres, ils collent du papier peint, alors que d'autres, vous voyez, font du graphisme. Il y en a d'autres qui colorient les oreilles du lapin, pendant que d'autres les comptent. C'est bien la même fiche. C'est-à-dire, elle montre comment certains enfants sont dans la tâche, comment d'autres sont dans l'activité. Et elle montre comment le rôle du langage des maîtres. Et ça, c'est passionnant. Alors, c'est parfois un peu déprimant. Bon, mais en même temps, il faut un peu... Enfin, vous voyez, c'est pas une question de personne, hein. Alors, j'ai remis le livre de Bonnery que j'avais mentionné ce matin et j'en pense beaucoup de bien. Les 2 livres de Florin sont exceptionnels. Agnès Florin, donc une grande spécialiste du développement du langage. Et j'ai mis un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Comment pensent les bébés ?». Alors, ne vous y trompez pas, ça va jusqu'à 4 ans. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit. Bon. Et en fait, montre comment, à 2 ans, l'enfant, par le langage, va reconstruire l'expérience de sa vie et va entrer dans le monde d'une autre manière par le langage. Et il montre, alors il parle beaucoup du fait que le cerveau est équipé, alors on parle d'équipement, c'est un mot très moche, est équipé pour apprendre à parler en montrant bien que s'il n'y a pas d'adultes, eh ben, ils ne parleront pas. Et en montrant bien que les apprentissages transforment sans arrêt les capacités du cerveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fait dans l'interaction. C'est magnifique. Le livre de Gopnik et Melstock, alors, ça se lit, moi, je trouve, comme un roman. C'est vraiment très beau. Après, il y a le livre de Carmi Love-Smith, « Comment les enfants entrent dans le langage ». Allez voir vers la fin, il y a quelques... Je ne sais pas si c'est 1 page et demie ou 2 pages sur la construction du récit. C'est très intéressant. Vraiment, c'est très, très bien. Alors, après, il y a aussi... le développement du langage aussi, tout est intéressant, mais les pages sur le récit sont très intéressantes. Et après, je vous ai remis les cahiers pédagogiques, Oser l'oral. Alors, oser le cahier pédagogique, parce qu'il est vraiment très bien fait, très bien fait. Et le dernier sur l'école maternelle 2007. On a si peu de choses sur l'école maternelle, très bien fait aussi. Voilà. Alors maintenant, je vous laisse la parole, parce que je sais... que vous avez des questions, parce que j'ai vu plusieurs mains me faire signe, et j'ai pas voulu arrêter mon discours, mais maintenant je vous invite à poser des questions.
Dans les programmes 2008, on trouve dans le domaine devenir élève, à un moment donné, quelque chose qui est fort intéressant, et heureusement on n'a pas attendu les programmes 2008 pour le mettre en place, c'est on propose à l'élève de dire ce qu'il apprend. Voilà. Alors, cet enjeu-là, dire ce qu'il apprend, où le situeriez-vous par rapport au langage oral ou par rapport au fait de devenir élève ou tout simplement être un humain, enfin. Mais là aussi, on est un petit peu dans une situation scolaire.
Oui, mais en même temps, pour moi, l'évaluation, c'est là-dessus qu'elle porte. S'il y a évaluation du langage à l'école maternelle, c'est là-dessus qu'elle doit porter, et pas sur la quantité de connecteurs, les structures de phrases, la longueur des phrases. C'est pas, je veux dire, ça, c'est un résultat, un produit. Ça ne peut être qu'un résultat, un produit. Pour certains enfants, non, c'est une activité. Mais les questions du maître, elles doivent porter là-dessus. Sur le comment tu le sais, comment tu fais pour, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas avant. Et pour moi, c'est ça l'évaluation du langage. Là, on est vraiment en train de toucher à la boîte noire des enfants. Mais on fait plus que la toucher, on la construit. C'est-à-dire, vous voyez, je crois que ça passe par des moments où on prend un enfant face à soi. 3 fois dans l'année, c'est bien. Hein. Sinon, on ne fait que ça, évaluer. Et dire, voilà, tout à l'heure, tu as fait telle chose, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait? Et en grande section, il y a une activité toute simple à faire, et qui pour moi est géniale, reprendre les cahiers dans lesquels sont collées les activités, à la fin de la semaine, et regarder avec un groupe de 4 ce qui a été fait, et leur demander ce qu'ils ont fait, et à leur avis, pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'apprendre en faisant ça? Et au moment où vous le demandez, ils le conscientisent, ils en ont la conscience, par le langage. Vous voyez, ça ne demande pas un matériel fou, des dispositifs compliqués. Et là, vous savez où ils en sont. Vous le savez où ils en sont. Un enfant qui a rempli une fiche et qui n'est pas capable de dire comment il a fait ce qu'il était en train d'apprendre, vous voyez bien qu'il est dans le vide cognitif, dans le désert. Il fait pour faire. On lui a demandé de colorier, il a colorié. Et il n'a pas compté, vous voyez ? Et c'est un danger des fiches, et ça Roland Guagou le montre bien, c'est que les fiches proposées pour l'école maternelle sont toujours très décorées. Il y a beaucoup d'éléments qui parasitent l'apprentissage. Il y a des lapins qui sont autour, des fleurs, etc. Et il y a des mômes qui sont omnubilés par ces fleurs, par ces lapins, et qui essayent de comprendre ce qu'ils font là, les lapins et les fleurs. Et qui ne voient pas qu'en fait, ce qu'il y a au centre, c'est compter, regrouper, trier. Et donc, Guagou dit, il faut abandonner le fun et revenir vers le zen. C'est-à-dire, il faut épurer pour que les enfants voient bien que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'apprendre à compter, on n'est pas en train de s'occuper des lapins et des fleurs. Et les lapins et les fleurs, s'ils existent, c'est un prétexte pour, voyez. Et ça, je crois que, pour moi, c'est une idée très forte. Hein. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, évidemment, ne partez pas en pensant que s'ils ont 30 mots, ça va. Non, c'est pas ça que je dis. Simplement, je dis que le langage se développe quand les activités intellectuelles sont mobilisées. Et que là, eh bien, le maître nous aide à mettre des mots sur ces activités et donc à intellectualiser ces activités et donc à développer le langage. C'est comme ça que ça se passe. Vous vous souvenez dans les années, je ne sais plus si c'est fin 70, 80, alors... Il y a des maîtresses de maternelle qui vont rigoler. On venait avec des corbeilles de fruits, et puis les enfants redisaient les noms des fruits, on leur apprenait. Puis un autre jour, c'était les formes, alors le triangle, le rectangle, et les enfants répétaient. Puis un peu plus tard, moi je me souviens, donc ce que je disais tout à l'heure à la pause, qu'on apprenait le vocabulaire de la chasse. Bon. Et alors, dans les 15 jours qui suivaient, certains, alors moi j'y arrivais, pouvaient répéter, c'est une gypsière, c'est un fusil, etc., etc. Et puis d'autres, c'est comme une ardoise magique. 2 minutes après, ça renvoie à rien, c'est le vide cognitif. Donc, les mots, ils n'existent pas. Si vous voulez, ils ne peuvent pas renvoyer à une activité intellectuelle, donc ils sont oubliés aussitôt. Et s'ils sont répétés, ils sont vides de sens.
Alors, moi, je suis passionnée par ce que vous venez de nous dire. Mais je voudrais savoir si vous êtes écoutée en haut lieu.
La réponse, c'est non.
Merci.
Alors, on est évidemment parmi les chercheurs, il y a des gens, ce que je disais à la pause tout à l'heure, il y a des gens qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui ont passé 30 ou 40 ans à ne faire que ça, qui sont des chercheurs passionnés par leur travail, qui travaillent 10, 12, 15 heures par jour, et leur recherche est balayée d'un revers de main. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit sur l'apprentissage de la lecture, voyez, ça peut être réduit à néant. Alors, il faut aussi qu'on soit... On sait bien que les coups de balancier, à un moment, ça va revenir. Hein. Mais il y a des gens qui sont en première ligne, notamment les maîtres de CP, les stagiaires qui sont totalement terrorisés à l'idée d'avoir un CP, les parents qui n'y comprennent plus rien. Donc tout ça, ça fait du mal. Et il y a certaines personnes qui ont la parole. Et quand je parlais du pouvoir de la parole, qu'on retrouve dans les émissions de télé, tout le temps les mêmes, les émissions radio, qui sont convoqués comme des experts. Bon. Et puis, il y a des vrais experts. Alors, moi, je pense à mes deux collègues, Daniel Cogit, Daniel Manès, qui ont fait un travail remarquable sur l'orthographe. Et elles ont... Alors, il y en a une des deux qui voulait rien dire en disant « Si on parle aux médias, on va couper ce qu'on dit et donc ça va faire des ravages. » Bon. Elle avait raison. Il y en a une autre qui a dit « Non, c'est important qu'on en parle. » Elle a aussi raison. Et donc, au journal, je crois, de TF1 à 20h, ils ont juste gardé le niveau orthographique des élèves baisse à l'école élémentaire. Et la fin de la phrase a été éliminée. Mais les élèves, aujourd'hui, savent faire énormément de choses qu'ils ne savaient pas faire il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et donc, vous voyez, ce qui reste des discours de ces chercheurs, c'est le niveau en orthographe baisse. C'est ce qui est faux, si on ne dit pas la suite. Vous voyez ? Alors, il faut continuer à se battre. Et puis... voilà, moi je me dis aujourd'hui, vous allez rentrer en vous disant, bah, y a tel élément qui me donne à réfléchir ou telle chose finalement qui m'éclaire un petit peu. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vous proposais ce matin, s'arrêter un moment pour arrêter la machine infernale et se dire finalement, si on s'arrête un peu, qu'on réfléchit ensemble, on en est où? Quelles sont nos priorités? Et pour les enfants des milieux populaires, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et c'est pour tous hein, qu'on travaille. Et c'est de la même façon les gens qui, d'une mauvaise foi, s'emparent disent « Ah oui, mais alors là, alors les enfants qui sont bons à l'école s'ennuient, ils n'apprennent rien. Puisqu'on s'occupe maintenant que des enfants des milieux populaires. » C'est n'importe quoi. Bon. Mais non. Les enfants, on conforte leur savoir, les reconfigure différemment, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris avec leurs parents, l'école va en faire autre chose. Donc ils ont besoin de l'école de la même manière. Ça ne se voit pas de la même manière, mais ils en ont besoin de la même manière. Mais moi, je ne perds pas du tout. Mon moral va bien. Alors, oser prendre la parole devant le grand groupe. Je sais que c'est difficile. Mais peut-être que vous en avez assez aussi, hein, parce que c'est un peu un marathon pour vous depuis ce matin. Il y a aussi des questions qui peuvent, peut-être par rapport à ce matin, vous avez eu le temps, vous en avez rediscuté pendant le déjeuner avec vos collègues, et si vous avez envie de reparler de ça, je réponds avec plaisir. Ah voilà, les albums sans texte. Oui, tout à l'heure je disais, quand on fait un atelier de langage, nécessairement il faut qu'il y ait un objet. Et les albums sans texte, pour moi, sont un objet particulièrement adapté. C'est-à-dire que ça permet la description. Ça permet le pointage. C'est-à-dire on peut montrer la petite souris sur l'image. Ça permet de dire quelque chose de son expérience par rapport à cette petite souris. Vous voyez, il n'y a pas la contrainte du texte. Le texte, c'est un contenant. Ça contient l'interprétation et la compréhension. L'album sans texte, ça permet de rentrer dans les livres par une voie où on va pouvoir parler à propos de cet objet. Et surtout, c'est comme raconté, si on le reprend une semaine après, on peut dire des choses très différentes. Et aujourd'hui, il y a un travail formidable des éditeurs autour des albums sans texte. Et on a aujourd'hui de magnifiques récits graphiques, c'est-à-dire ce sont de vrais récits mis en images. Il y a des albums sans texte qui ne sont pas des récits et des albums qui propose un récit qui a été pensé comme tel et qui est porté par les images. Et vous voyez, pour moi, avec un groupe d'enfants non parleurs ou petits parleurs, eh ben, c'est au début de pointer, vous pointez, vous dites, tiens, il y a une souris. Tiens, il y a un chat. Vous voyez, l'air de rien. Vous savez, quand on prend notre air innocent et que, l'air de rien comme ça. Tiens, il y a un chat. Ben, souvent, les chats et les souris, ça va ensemble. Et les chats, ça mange les souris. Et voyez, ça y est, vous y êtes. C'est-à-dire, vous êtes en train de construire la culture, l'air de rien, à propos d'une image. Et poser des questions sans attendre les réponses, puisqu'il ne parle pas. Peut-être que ce chat, il a l'intention de manger cette souris. Pour l'instant, on ne sait pas. Si on allait regarder un peu plus loin, peut-être qu'on va le savoir. Et voyez, et vous dites simplement les choses, vous posez la question et vous n'attendez pas la réponse. Parce qu'il n'y a rien de pire que de poser une question à un enfant qui dit rien. Installer le silence, c'est terrible. Donc vous répondez à vos propres questions, mais ils sont en train de dire, alors quand elle dit ça, elle attend ça comme réponse. Quand il montre ça, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'ils construisent, la scolarisation des objets. Ouais. Et là, je trouve que depuis, notamment dans la liste cycle 2, La première entrée, c'est album sans texte, et il y a des choses remarquables qui sont proposées. Pas simple, hein, parce que la course au gâteau, rue du chat qui pêche, c'est pas simple, mais c'est très intéressant.
J'avais une question par rapport justement aux enfants qui ne parlent pas. On a tous commencé à mettre en place le soutien sur le temps de, enfin, quand on a le temps d'ailleurs. Mm-hmm. Pour la plupart des écoles maternelles, il y a beaucoup de ce soutien qui est consacré justement au langage et à la langue orale. Dans notre école, on a renoncé justement au bout d'une première période avec certains enfants en se disant bah, de toute façon, soit un, il ne parle pas, donc au bout de 2 mois, 3 mois, on a arrêté parce qu'il ne parlait pas, ou d'autres qui s'étaient mis à parler dans le petit groupe mais qui ne réinvestissaient pas du tout dans le grand groupe. Mm-hmm. Donc vous aviez évoqué une durée, il me semble, à un moment, de 3-4 mois. Est-ce qu'il...
Minimum.
D'accord, donc en fait, il faut continuer.
Oui. Il faut continuer. Et surtout, quand vous dites ça, c'est très intéressant. Ce qu'ils disent en petit groupe, ils ne le redisent pas devant le grand. Eh bien, allez-y, vous, faites pour eux. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous avez repéré que dans le groupe, il y a Mathieu, Léa, Eva, et que ces enfants en grand groupe ne disent rien. Et l'air de rien, toujours l'air de rien, vous dites, toi, tu sais, Mathieu, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu te souviens, hein? On a regardé ce livre et on avait dit que, et vous dites pour lui. Et voyez, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous prenez en charge ce qu'il n'arrive pas encore à faire. Je le dis à ta place parce que c'est encore trop difficile que tu le répètes devant les copains. Mais je valide que tu le sais. Et voilà. Et alors, c'est jamais un miracle, hein. Et en même temps, le jour où ils s'y mettent, après, c'est pour toujours. C'est-à-dire, une fois qu'il arrive à parler devant le grand groupe, eh ben, voilà, une fois qu'il a passé cette étape, il pourra le faire. Alors, je vous remercie de poser la question du langage, parce que d'un seul coup, je me rends compte qu'il y a une chose fondamentale que je n'ai pas dite et j'ai honte. Peu importe la langue du moment qu'ils sont en langage. Ça peut être la langue de l'école, ça peut être la langue maternelle, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient en langage. Alors, vous allez me dire, s'il parle turc, comment moi je vais aller voir s'il est en langage ou pas? Vous voyez? C'est compliqué. Mais très vite, on repère les enfants qui, quelle que soit la langue, ils peuvent être bilingues ou trilingues, sont pas en langage. C'est-à-dire, la langue ne sert pas à réfléchir, penser. Elle sert à nommer des objets. Voyez? Elle sert à répéter des mots. Mais elle ne construit pas l'activité intellectuelle. Et souvent, le fait qu'il soit bilingue, ça peut masquer le fait qu'il soit pas en langage. Parce qu'on se dit, bah oui, mais il a sa langue à lui. Bon. Alors, j'ai entendu comment on le sait. Ben, comment on le sait? Alors, il y a des manières de le voir. C'est-à-dire que quand il joue, vous regardez s'il s'auto-alimente avec les mots. Et quand ils sont petits, souvent ils accompagnent l'action. De temps en temps, il y a des mots qui sortent, il y a des choses qui sortent. Et puis après, vous allez très vite demander, vous allez voir aussi très vite comment les parents sont dans l'interaction avec l'enfant. C'est-à-dire, si les parents viennent chercher l'enfant, attrape le manteau et vous en voyez plein. Mettre le manteau, on dit rien. Attrape le bonnet, mettre le bonnet, etc. Vous voyez, il n'y a pas de langage là. On fait des choses ensemble et c'est très bien. Bien sûr, l'enfant, il faut l'habiller, etc. Mais il n'y a pas de langage. Et on a aujourd'hui, par exemple, des problèmes parce que, vous voyez, dans les centres de rétention type Sangatte qui est fermé, mais il y en a d'autres ailleurs, hein, et puis se sont installés ailleurs les gens. On a des couples qui se forment. Alors, ça peut être, par exemple, un Afghan avec une Turque, par exemple. Donc, il n'y a pas de langue commune. Mais très vite, ils vont construire la langue du couple. Et souvent, les parents n'osent pas parler leur langue à l'enfant en disant, parce qu'ils entendent tellement qu'il faut s'intégrer, etc., que du coup, ils baragouinent à l'enfant la langue de l'école. Et ça, c'est redoutable. Parce qu'il n'y a aucune langue stabilisée. Donc, ça empêche la construction intellectuelle, vous voyez. Et là, il faut dire tout de suite aux parents, attendez, vous parlez la langue maternelle et le père parle sa langue. Et l'enfant, il sera bilingue. Et l'école, elle se charge de lui apprendre la langue des apprentissages, vous voyez. Et ça, il va ramer au début, le gamin. Mais c'est pour mieux s'en sortir après. C'est-à-dire, dites-vous, il a le temps.
Oui, moi je pense que c'est pas du tout dans l'air du temps parce que on lit beaucoup de choses là-dessus, justement, qui nous disent qu'il faut que les parents, pour s'intégrer, pour comprendre
le français. Oui, dans leur vie quotidienne à eux, quand ils vont faire leurs courses, ils peuvent s'efforcer de parler la langue du pays qui les accueille, avec des guillemets accueil. Mais il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous parle une langue très construite, très stabilisée, et on a un référent très fort. Papa, il peut me parler, et l'enfant, il fait tout de suite, il sait très bien. Et le couple a sa langue après, et ça, c'est l'affaire du couple. Et l'enfant, il a la langue de l'école. Alors que si les parents baragouinent le français en disant ben, « ça va aider mon enfant à s'intégrer », c'est redoutable, parce que du coup, le môme, il n'a aucun moyen de construire une activité langagière. Il est perdu. Il a un peu de mots comme ça, un peu de mots comme ça, et tout ça mis ensemble, ça fait rien du tout.
Mais ça, c'est ce qu'on avait... Enfin, moi, je suis instite depuis un certain temps. Avant, on nous disait ça, mais maintenant, on nous dit autre chose.
Oui, mais on confond le langage que les parents... La langue que les parents ont à construire parce qu'ils vivent dans tel pays, et pour se débrouiller, etc., on leur demande de rendre compte de ça, de cette maîtrise. On leur demande de rendre compte maintenant. Hein. Et ce qui se passe dans la famille... Et ce qui se passe au niveau du langage. C'est-à-dire, moi, je pourrais, par exemple, imaginons que je parle une langue étrangère, répéter mécaniquement à la boulangerie, je veux une baguette, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, je suis en train de penser dans ma langue à moi. Et dans le cas où je dis, je veux une baguette, s'il vous plaît, je suis dans la langue, je répète, et quand je me dis des choses à l'intérieur, moi, je suis dans mon langage. Et c'est ma langue qui me permet d'être en langage. Vous voyez ? Et là, effectivement aussi, hein, là, il y a des choses qui... ont des effets un peu terribles. Hein. Mais il y a une époque aussi, on disait dans les lycées à l'étranger, voilà, alors, il y avait la maîtresse donc, qui apprenait le français aux petits, et puis il y avait l'équivalent du NATSEM qui devait parler, qui était donc une locale et qui parlait la langue locale. Et on disait au maître, surtout vous parlez toujours français, et NATSEM parle toujours la langue locale. Ah bah oui, bah, la belle affaire. Quand le gamin vient vers vous en disant dans sa langue, j'ai mal au ventre ou je veux ma maman, s'il ne le dit pas en français, alors on ne l'accueille pas, on n'en fait rien. On le renvoie à l'ATSEM. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors, derrière, vous savez ce qu'il y a, c'est aussi la langue du pays qui nous accueille, entre guillemets, mais dans lequel on est parfois très mal, dans lequel on a peur parce qu'on n'a pas de papier, etc., etc. Donc, voyez, cette langue... Si on n'ose pas la dire, c'est qu'il y a aussi parfois d'autres enjeux psychologiques, etc. Et il y a des enfants français qui le font. Mais et ce qui est difficile pour nous, c'est quand on a plusieurs enfants dans la classe qui parlent une autre langue. Et ils vont se regrouper autour de cette langue. Et ils vont parler ensemble. Et comme nous, on ne la comprend pas, on est complètement exclu de ce processus. Et là, ça demande, moi je crois, des moments où quand ils jouent, au moment des jeux libres, ils peuvent être ensemble, mais au moment des apprentissages scolaires, il ne faut pas les laisser ensemble. Parce qu'il faut qu'ils construisent la langue des apprentissages, c'est-à-dire le français. Et là, il faut être un peu ferme. Les moments d'apprentissage scolaire, il ne faut pas les laisser ensemble. Alors, vous disiez, il y a aussi... Et pas avec nous.
Et pas du tout avec l'enseignant référent. Oui.
Alors...
Non, moi, j'en ai en grande section, même, qui font ça.
Alors...
Qui sont français, parfaitement français.
Déjà, quand vous dites qu'ils parlent avec leurs parents, il faut vérifier. Alors, si vous les entendez, oui, parce que souvent les parents viennent vous dire « Ah, mais je ne comprends pas, à la maison, ils parlent tout le temps. » Alors, après, si vous voulez, alors je vais dire un truc terrible, mais ne le prenez pas du tout comme une critique ou... c'est pas du tout mon genre. Je ne juge pas, j'essaye de comprendre. Mais si un enfant en petite section a dit au moment où vous ouvriez un album qui parle d'une coccinelle dans un jardin, « Ma maman m'a acheté des bottes rouges qui brillent hier. » Et qu'on dit « c'est pas le moment », du coup, il ne sait pas quand c'est le moment. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des enfants que ça leur cloue le bec. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'on a le droit de dire devant tout le monde ou pas, les moments où on peut ou pas. Et il y a des moments, après tout, il y a des, par exemple, le quoi de neuf, on peut dire un peu ce qu'on veut. Vous voyez ? Et donc, dans leur tête, c'est difficile de savoir quand je suis autorisée, quand je peux faire. Alors après, il y a aussi des questions... Alors après, attention, hein, l'absence de langage, souvent, cache autre chose. Il y a des timides. Sauf que je suis d'accord avec vous, madame, il y a des enfants qui parlent tout le temps et en grande section, on sait qu'ils nous saoulent. Alors que chez les petits, on fait tout pour qu'ils parlent. Après, ils ont compris le pouvoir du langage. Ils parlent tout le temps et ils empêchent les autres de parler. Ils coupent la parole. Et surtout, en grande section, ils ont toujours raison. Parce qu'ils ont compris ce que c'était. Mais attention, il peut être timide et on respecte cette timidité, sauf que il y a des moments, on demande à l'enfant de verbaliser et là, on lui laisse plus le choix. Sinon, on ne sait jamais où il en est. Et ils peuvent faire illusion. C'est-à-dire, on a toujours l'impression qu'ils écoutent et qu'ils comprennent. Ils peuvent même faire ça tout le temps. Et quand on va gratter un peu, mais on a aussi le contraire avec des enfants qui parlent tout le temps, mais pour ne rien dire. Et quand on pose la question sur le processus, il n'y a rien. Il est dans la parole et pas dans le langage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas à faire violence à un enfant qui est réservé, timide pour des tas de raisons. Mais il ne faut pas accepter la situation où on sait qu'il y en a 8 à 10 par classe qui disent jamais rien. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut leur dire, moi là, j'ai besoin que tu me dises pour savoir où tu en es. Ouais. C'est difficile.
Ah oui.
Et bien à ce moment-là, il faut passer par montre-moi. Vous voyez, c'est subtil au début. C'est tiens, va chercher l'objet qui permet de faire telle chose. Et puis on voit. Déjà, si, parce qu'il y a une grosse différence entre comprendre et dire. Ils comprennent beaucoup mieux qu'ils ne disent. Et nous, on est pareil. Moi, je parle espagnol. Je comprends quasiment tout en espagnol. Quand je parle, c'est pas terrible. Mais vous voyez, la compréhension est beaucoup plus développée. C'est normal. Et donc, ça va passer par ça. Montrer. Tiens, va chercher le livre qui raconte l'histoire de... Et vous voyez. Et là, on voit bien s'il a compris l'histoire, s'il rapporte le bon livre ou pas. Donc, vous voyez, au début, ça va passer par là. Mais en tout cas, il faut pas faire son deuil de ça, c'est-à-dire se dire, bon, il y a des enfants qui parlent jamais. Alors, si on se dit, on a 3 ans pour y arriver, on y arrive. On y arrive. Mais c'est un combat quotidien. Et puis, c'est vrai qu'il y a des classes où on a à la fois à régler les problèmes de langue, de parole, de langage, on a tout ensemble. Bon. Donc là, il n'y a que le temps qui permet de...
Comment être en langage, avec votre définition, en utilisant un outil qu'on voit beaucoup dans les classes, qui est l'imagier?
Alors, il y a imagier et imagier. Alors, effectivement, si on reprend l'imagier du père Castor, que je ne critique pas, c'est ce qu'on en fait qui est intéressant. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, ça permet de nommer un objet, on enlève le déterminant et on repère l'unité vache, l'unité mouton, et on ne dit plus une vache, un mouton. Vous voyez, donc là, on découpe la chaîne et on voit que ce qui est écrit renvoie à vache, ce qui est écrit renvoie à mouton. Et quand on est sur les activités langagières, c'est nommer et dire, tiens, cet animal... Quand est-ce qu'on en voit? Où on en voit? C'est-à-dire le décontextualiser, le faire sortir de la page de l'imagier et parler à son propos. Voilà. Et là, ça fonctionne pour le langage. Sinon, effectivement, on peut faire répéter aux enfants et on est sur la langue. Bon, maintenant, on a des imagiers des actions qui aident beaucoup ça, à faire ça, vous voyez, qui sont plus faciles. Même si je me désespère de voir la difficulté, parce que j'en ai pas parlé ce matin, des nouveaux imagiers. C'est comme le reste. Ouf. Là, on voit des ombres. Et il y a écrit « dès 2 ans ». Les ombres sont déformées. Si vous en êtes d'accord, on s'arrête. Oui. Je vous remercie pour votre attention.
Merci aussi.